Emmanuel Grosse Tête, bonjour.
Bonjour. Nous voici réunis encore une fois après l'étude de ces 6 chapitres de Laudato Si pour réfléchir à comment mettre en acte cette encyclique que nous avons étudiée durant toute cette année. Alors aujourd'hui, nous vous proposons un format un peu spécial. Nous allons partir à la rencontre de Marie-Hélène Lafage au cœur d'un café associatif Le Simone à Lyon. Marie-Hélène Lafage est une personne jeune chrétienne engagée qui a fondé les Alter Cato à la suite de l'appel du pape en 2015. Donc voici un reportage d'une demi-heure. Bonne immersion au cœur du Simone à Lyon.
Nous avons réfléchi tout au long de cette année sur l'encyclique Laudato Si. Nous avons refermé le dernier chapitre le mois dernier. La question se pose alors, et moi, que puis-je faire ? Pour cette avant-dernière édition, j'ai le plaisir de rencontrer Marie-Hélène Lafage au cœur de son quartier général à Lyon, au café Le Simone. Comme vous l'aurez compris, Radio Maria a déplacé ses studios pour aller à la rencontre de celles et ceux qui, comme Marie-Hélène, vivent ce dont ils croient. Marie-Hélène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes urbaniste, consultante en politique locale sur la transition écologique. Vous travaillez avec des élus locaux sur les enjeux d'actualité. En marge de cette description professionnelle, vous avez édité ce petit guide Laudato Si en acte pour apprendre à concilier l'écologie avec la vie spirituelle. Vous revenez sur l'appel du pape François en proposant une mise en pratique de son encyclique par la création et l'animation de groupes Laudato Si en acte, par un parcours didactique et pédagogique sur des thèmes aussi variés que l'alimentation, la consommation et le numérique. Vous avez cofondé le café associatif Le Simone où nous nous trouvons actuellement, ce lieu d'échange sur notre monde et ce lieu de rencontre. Avant de vous entendre, j'aimerais que vous nous fassiez visiter ce lieu emblématique, le café Le Simone, qui a été témoin de votre belle initiative Laudato Si en acte.
Oui, bah, bienvenue au Simone. Le Simone est un lieu qui a été créé en 2016. Par une association qui s'appelle les Alternatives Catholiques. Et donc, au départ, les Altercatos, comme on dit aussi, ont été créés en 2011. C'était un groupe de jeunes, enfin c'est toujours un groupe de jeunes, qui avaient envie de se former sur les questions sociales et politiques et sur la doctrine sociale de l'Église. Et le fondateur de l'association aimait bien dire « il ne faut pas qu'on soit des chrétiens du dimanche ». Sous-entendu, il ne faut pas qu'on soit chrétien uniquement le dimanche en allant à la messe, mais qu'on réfléchisse à comment ça rejaillit sur l'ensemble de notre vie le reste du temps. Et d'où cette envie de se former sur les questions sociales et politiques et sur la doctrine sociale. Et après, ce qui est venu assez rapidement comme idée, c'est que c'était bien d'avoir un lieu qui nous permette de mettre en pratique aussi les sujets sur lesquels on réfléchissait, on débattait, on organisait des conférences. Et qu'avoir un lieu aussi ancré dans la cité, c'est une manière d'être pleinement acteur dans cette cité. Et donc on a créé le Simone qui est à la fois un café et un coworking, donc un espace de bureau partagé, où il y a des personnes qui louent leur bureau, donc vraiment un lieu investi par des travailleurs. Donc finalement c'est un lieu assez complet puisque ça va être à la fois un café de quartier ouvert sur la rue, sur l'extérieur, un lieu où il y a les activités des altercatos, donc avec toutes nos propositions de conférences, d'ateliers, des soirées aussi plus conviviales comme des soirées chansons, des bals folk, enfin voilà un certain nombre d'activités en soirée. Et puis après, le coworking, cet espace de bureau partagé où il y a des personnes en journée qui sont présentes, qui viennent. Et donc, il y a une quarantaine de coworkers qui vont et viennent dans le lieu et pour qui le café est aussi un lieu de pause, un lieu de rencontre. Et puis après, il y a toute la dynamique autour du groupe écologique qui, justement, s'est enracinée dans ce contexte très vivant qu'est le café Le Simone.
Et puis, il y a eu Laudato Si. Comment l'avez-vous reçu ?
Du coup, moi, j'étais déjà impliquée au Simone, donc dans cette équipe des Altercatos et du coup dans la création du lieu avec les copains. Et le Simone était vraiment ce lieu où on peut réfléchir à mettre en pratique la doctrine sociale. Quand on lit une encyclique sur la question du travail, ça nous interpelle. Donc Laborem Exercens, par exemple, ou quand on lit les textes de l'Église sur les réflexions d'actualité, voilà, comme en ce moment on peut lire aussi ce qu'écrit l'Église dans le contexte de la crise du Covid. Et donc nous, notre volonté, c'était de se poser la question de comment... Quelle traduction pratique pour ces réflexions à la croisée entre notre foi et les questions de société. Et donc le fait de lire l'encyclique, je l'avais déjà lu quand même avec ces lunettes-là, avec ce regard-là. Mais par contre, ce que j'ai vécu après plus personnellement, en dehors de ce qui était déjà le terreau des altercato, c'est une vraie rencontre, une vraie synthèse entre ma démarche spirituelle, ma foi. Je me suis convertie quand j'avais 20 ans. Pour moi, j'étais encore dans une construction de ma foi, et j'aime bien dire que l'encyclique a été une forme de seconde conversion avec cette dimension écologique et cette question de la création qui est venue compléter ma foi. Et ça a été une synthèse entre donc, tout ça et aussi mes engagements écolos qui prenaient de plus en plus de place. J'étais de plus en plus impliquée dans des associations écolos à Lyon. Et puis voilà ma volonté d'engagement pour vivre vraiment la doctrine sociale. Donc en fait l'encyclique est venue un peu embrasser toutes ces dimensions, et puis étant aussi poète par ailleurs, la figure de Saint François qui pour moi me parlait beaucoup dans la manière qu'on a de regarder la création pour sa simple beauté et cet appel à louer la création. Donc voilà, du coup ça a été vraiment une rencontre entre toutes ces aspirations-là, et de me dire enfin on a un texte qui fait le lien entre ma foi et la manière que j'ai de l'envisager, avec pour moi ma foi, ma relation à Dieu passe aussi par ma manière de regarder la création, et de l'autre côté cette question écologique. Donc vraiment un texte de synthèse, et le fait de le lire, donc à la fois ça m'a rejoint, et à la fois je me suis dit, mais cet appel qui est adressé à l'Église à la fin de l'encyclique, de dire l'Église a sa part, l'Église doit s'engager dans une conversion écologique, je me suis dit je peux pas reposer ce livre sur l'étagère en me disant c'était intéressant, c'était bien, il faut que je réfléchisse à comment le traduire de manière concrète et pratique. Et comment moi, si je suis appelée, comme il est dit dans l'encyclique, à vivre une conversion écologique, un changement de style de vie, un changement de regard sur plein de questions, et une conversion intérieure, j'ai envie de le vivre vraiment, d'avoir davantage de cohérence de vie, de le vivre avec d'autres. Donc du coup, l'idée m'est venue de lancer un petit groupe parmi les différentes activités du Simone, que j'ai appelé groupe Laudette aussi en acte, petit groupe de conversion écologique. Et donc j'ai fait appel à un ami qui s'appelle Cyril Fray, un couple d'amis, Marie et Cyril Fray, qui était déjà très engagé sur l'écologie, qui avait aussi fait beaucoup de choses, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait proposer pour s'approprier l'encyclique et la traduire en acte. Donc c'est vraiment ça la genèse des groupes de conversion écologique, c'est cette envie de vivre un chemin de conversion écologique, de le vivre avec d'autres, et cette exigence de traduire la doctrine sociale en acte.
L'appel du pape François à sauvegarder la maison commune dans son encyclique n'est donc pas une simple incitation à adopter des gestes écolos. Il est, à vous entendre, une véritable invitation à vivre la conversion écologique dans toutes ses dimensions matérielles et spirituelles. Alors entrons un peu plus dans les détails de votre démarche, et à la lecture de votre guide, on y sent toute la jeunesse, l'énergie, la passion et les codes de management participatif. Expliquez-nous votre démarche.
Oui, alors c'est vrai qu'il est dit dans l'encyclique que la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure, et ça je pense que c'est important. En fait, on va revenir un peu sur la notion même de conversion écologique, qui est pas définie en tant que telle dans l'encyclique, au sens où le pape François va pas à un moment donné de l'encyclique dire la conversion écologique est de point à la ligne. En fait, il y a un certain nombre d'affirmations à la fin de l'encyclique pour qualifier la conversion écologique, où le pape François en donne plutôt des caractéristiques, donc un peu une peinture par petites touches, comme on aurait un tableau impressionniste qui nous dirait quelque chose de la conversion écologique. Et donc, dans mon livre et dans la démarche que j'ai lancée au Simone, j'ai essayé plutôt d'habiter ces différentes dimensions. Donc, on retrouve notamment dans mon livre toute une partie sur la conversion écologique qui vise à expliquer, à redonner ces différentes dimensions. Donc, on retrouve, voilà, la conversion écologique, c'est une démarche de conversion intérieur et spirituel, c'est aussi un changement de vision du monde avec le tout est lié du pape François qui nous aide à comprendre ces liens entre les questions économiques, sociales, écologiques. C'est un lien renouvelé avec la création, avec une manière différente de la regarder. C'est aussi agir et changer son style de vie personnel. C'est une conversion communautaire qui invite à l'articuler avec le collectif et donc à le vivre. Ensemble et à aussi avoir une action collective qui permet d'avoir en fait une action sociale, de rejoindre les périphéries. Et puis aussi, c'est une dimension de joie et de réalisation personnelle que j'ai voulu mettre en avant. Donc en fait, moi j'avais du coup identifié un peu tous ces aspects-là qu'en gros j'avais envie de vivre à travers le groupe de conversion écologique, qu'on peut résumer aussi à travers trois dimensions qui sont. La dimension de la formation, avec le fait de s'approprier le dette aussi. La dimension de l'action, donc avec des engagements individuels et collectifs. Et puis la prière et toute la démarche spirituelle et de conversion intérieure. Et pour moi, c'était vraiment ces trois dimensions-là, ces trois dimensions fortes qui étaient à vivre avec le dette aussi. Donc du coup, ce que amenait l'encyclique, c'est effectivement pas uniquement de dire il faut faire des gestes écolos. Ça n'empêche pas que faire des gestes écolos aujourd'hui, ça fait réfléchir, ça induit un certain nombre de changements de vie, ça peut provoquer des changements plus larges que seulement le geste qu'on fait. Mais se dire que on agit en se formant à côté et en essayant de faire ce lien entre notre vie spirituelle, notre foi et ces questions écologiques, pour moi, c'est fondamental. Et donc, c'est un peu l'invitation des groupes de conversion écologique, voilà, de tisser ce lien entre notre foi chrétienne, qu'on vit aussi dans des communautés, dans des communautés de foi chrétienne, enfin de vie chrétienne, et puis les questions écologiques. Et se dire, en fait, l'écologie n'est pas quelque chose d'extérieur à l'Église, où les chrétiens devraient se mettre à faire des actions écolo, mais la crise écologique doit nous interpeller aujourd'hui dans notre foi, de se dire que si on a cette situation d'urgence écologique, c'est quelque part on n'est pas en communion avec Dieu aujourd'hui et que notre relation à la création n'est pas ajustée. Donc on est appelé à une conversion profonde qui derrière doit se traduire par effectivement un autre style de vie, comme le dit le pape François. Donc voilà, c'était vraiment effectivement toutes ces dimensions-là qui pour moi étaient à aborder. Et l'idée, c'était pas de créer un simple club pour faire des gestes écolos dont on peut trouver des listes à l'appel sur Internet. Voilà.
Vous avez l'expérience de ces groupes depuis 5 ans. Quels sont les obstacles à éviter, les écueils? Quels conseils pouvez-vous nous donner?
Les groupes, ce qu'il y a d'important, c'est d'impliquer aussi les personnes qui en font partie. Pour qu'elles puissent apporter aussi tout ce qu'elles ont à apporter, parce que, en fait, moi, pour avoir vécu ce parcours pendant un an, ça a profondément transformé ma vie. Enfin, voilà, j'ai pas. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi et qui m'a donné envie de témoigner. Alors, on peut trouver ça anecdotique de se dire. Oui, voilà, donc j'ai revu mon alimentation, on a lancé une AMAP avec le groupe, donc. Une association pour le maintien de l'agriculture paysanne en lien avec un producteur local qui nous amène des fruits et légumes. Donc j'ai revu complètement mon alimentation. Aujourd'hui je passe du temps à faire la cuisine qu'avant je passais pas. J'essaie le plus possible d'être dans une démarche zéro déchet qui du coup m'a resituée dans un lien avec la création parce que on récupère des produits de saison qu'ensuite quand on adhère à un compost, quelque part on resitue dans un cycle en faisant revenir des choses à la terre. Donc toutes ces choses-là transforment profondément dans ce qu'on vit. Donc c'est d'abord cette envie de témoigner qui était très importante pour moi. Et puis après, dans ce qui est proposé dans le groupe de conversion écologique, il y a aussi toute une dimension, je le disais, de formation, où c'est en fait lire concrètement l'encyclique, essayer de la comprendre, essayer de voir ce qu'on retient. À travers les grandes thématiques qu'on aborde dans l'année, pour après Une fois qu'on a identifié un peu les idées clés, prendre des engagements. Donc si je prends là, j'ai développé un exemple concret sur l'alimentation et la manière dont ça a changé ma vie. Et donc le parcours de conversion écologique, il va proposer sur le thème se nourrir, d'abord essayer de voir ce que l'encyclique peut nous enseigner là-dessus. Ensuite, impliquer les personnes et les participants en leur permettant de faire des petits topos sur des sujets en lien avec le thème. Donc ça peut être aussi des grands sujets à débat, hein. Est-ce qu'il faut manger moins de viande? Le bio, pourquoi c'est cher? Et puis c'est comme ça que quelqu'un est venu à parler des AMAP et qu'après on s'est dit tiens, c'est une bonne idée, on va essayer d'en lancer une. Donc il y a cette mise en action des participants qui se fait aussi à ce moment-là. Et puis ensuite, on propose aux personnes de poser des engagements individuels, collectifs, donc individuels, voilà, dans leur vie de tous les jours. Et puis à la séance après, on va faire le bilan de ce qu'on a mis en place et aussi se réjouir du parcours de chacun. Et puis la prière est présente aussi à chaque séance. Et donc voilà, je fais ce détour en expliquant vraiment le parcours parce que du coup, c'est les personnes qui, au début de l'année, choisissent les thèmes et qui font aussi le bilan à la fin de l'année du parcours. Et ça permet de voir par rapport aux attentes de chacun en quoi est-ce que le parcours a permis d'y répondre ou pas. Et ça nous a aidé énormément à progresser. Donc finalement, les écueils, ça a été plutôt de constater année après année que parfois il y avait des personnes qui s'y retrouvaient pas sur tel aspect, donc on essayait d'imaginer différemment l'année suivante. Et donc la dimension de participation, pour moi, voilà, c'est quelque chose d'essentiel pour éviter un certain nombre d'écueils, où on part parfois avec des super bonnes idées de ce qu'on a envie de vivre en groupe ou de faire vivre à d'autres personnes, mais c'est peut-être pas forcément ce qu'elles viennent chercher. Donc se poser au début pour dire qu'est-ce que chacun on en attend, et puis à la fin, qu'est-ce qu'on a pu y trouver. Donc c'est comme ça que notamment la dimension de la prière a pu être revue différemment à d'autres moments, qu'on a rajouté aussi un temps de carême qu'on investit vraiment avec Laudato si. Voilà. Après, sur les écueils à éviter, je pense que c'est aussi que souvent, pour ce type de parcours qu'on veut lancer, on attend un peu trop d'être des sortes d'experts. C'est-à-dire, on se dit, en fait, pour lancer un groupe comme ça, il faut que j'ai quelqu'un qui connaisse super bien Laudato si, il faut que tout soit parfait, il faut que tout soit comme ci, comme ça, puis il faut qu'on fasse des tas d'actions d'un seul coup. Et en fait, dans le livre, ce que je propose en termes de méthode d'animation, c'est de dire, il y a une personne qui est lecteur de Laudato si, donc je l'appelle comme ça, donc c'est en fait très simplement une personne qui va apporter des idées clés de l'encyclique sur les thèmes, mais en fait avec évidemment sa lecture à lui, et peut-être que quelqu'un d'autre qui interviendrait sur le même thème dirait des choses un peu différentes. Alors il y aurait quand même un fond commun qui est l'encyclique. Mais voilà, enfin en fait, faut y aller aussi avec beaucoup d'humilité et se dire très simplement, voilà, cheminons ensemble, essayons de voir ensemble ce qu'on peut s'apporter, et pas forcément se dire, il faut que j'ai un spécialiste, de l'audit aussi, etc. Ce qui n'empêche pas que, aussi en termes d'écueil, parfois savoir où sont ses limites. C'est-à-dire se dire, là, en fait, on est en train de se poser des questions ou de débattre sur des sujets. Donc ce serait intéressant d'organiser une conférence en invitant un théologien parce que là on est en train de se faire des grands débats sur la vision de la création, la distinction entre la nature et l'homme à l'image de Dieu, etc. Hein, faisons une conférence sur la théologie de la création et on aborde ce sujet et on va chercher des ressources à l'extérieur. Voilà. Donc en fait, resituer le groupe, je pense, dans une juste humilité de essayons à quelques-uns de cheminer, de poser quelques actions. Et ça me semble une manière de commencer très humble qui peut aider plutôt que de vouloir avoir des schémas ou des structures trop parfaites. Et puis après, un des écueils, c'est aussi dans quel contexte ça vient s'enraciner. Si c'est dans une paroisse, par exemple, c'est indispensable de bien faire le lien, enfin, évidemment avec le prêtre, mais aussi avec les autres groupes qui sont là dans la paroisse, et de réussir à mobiliser des personnes sur les bons temps et dans les bons lieux pour pas que ce soit quelque chose qui vient en plus, qui a du mal à mobiliser. Voilà, enfin, il y a cette question quand même de la mobilisation des personnes qui, de toute façon, aujourd'hui, pour tout groupe dans l'Église, est un sujet.
Vous parlez beaucoup de groupes, de participation, d'intelligence collective. Le pape a dédié cette encyclique à toutes les personnes de bonne volonté, cherchant la vérité. Comment intégrer les personnes à la périphérie de l'Église? Comment ces deux groupes, catholiques et non catholiques, peuvent coexister, peuvent approfondir le thème de l'encyclique?
Les groupes de conversion écologique, ils interviennent dans un contexte qui peut être très différent, enfin des contextes qui peuvent être très différents dans l'Église, que ce soit lancer un groupe dans sa paroisse, que ce soit lancer un groupe dans son quartier, dans une aumônerie, dans une école, dans une communauté religieuse. Ça peut être vraiment dans tout type d'endroit où des chrétiens ont envie de se réunir pour vivre la conversion écologique. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait des espaces aujourd'hui pour ça. Puis il y a des chrétiens, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai constaté à travers l'animation de groupes année après année, en me promenant aussi un petit peu en France, en allant voir d'autres groupes. Il y a aujourd'hui besoin de ces espaces pour vivre une conversion écologique dans l'Église. Donc en ça, c'est légitime qu'il y ait ces groupes et ces espaces dédiés aux chrétiens. Après, ça n'empêche pas que les actions qui sont montées et tout ce qui est justement périphérique au groupe, dans une logique un peu de cercle, différents cercles concentriques, permettent de toucher justement les périphéries et l'extérieur de l'Église. Si dans une paroisse, le groupe Laudate aussi se dit que, en fait, il y a un bout de terrain qui n'est pas utilisé et qu'on pourrait le transformer en jardin, ça va peut-être permettre de toucher des personnes qui sont extérieures à la paroisse, des personnes du quartier, qui vont venir discuter, s'intéresser à ce qui se passe dans la paroisse. Et c'est là qu'on réussit à toucher justement des personnes à l'extérieur. Et l'Église sort aussi un petit peu de ses murs par toutes ces actions qui peuvent émaner des groupes de conversion écologique, qui visent aussi à s'enraciner dans notre environnement immédiat. Alors tous les groupes ne vont pas forcément être dans un lieu ou un endroit où ils peuvent mettre plein d'actions, mais en place comme ça, vraiment sur des terrains ou sur des bâtiments. Mais ça peut être simplement aller voir les associations locales, parce que d'un seul coup, on s'est lancé dans un débat sur tel sujet ou sur tel thème, que par exemple, il y a quelqu'un qui a témoigné de l'intérêt de la biodiversité et qu'en fait, on ne connaît pas du tout les petites bêtes autour de nous, organisons une sortie biodiversité en allant voir telle association. Et du coup, c'est toute cette démarche d'aller vers l'extérieur, d'aller à la rencontre, qui pour moi est au cœur de l'écologie. Et parce qu'en plus, c'est évident qu'on n'a pas toutes les ressources et que l'encyclique est adressée aux hommes de bonne volonté et que nous, il faut qu'on s'adresse à tous ceux qui ont des ressources à nous apporter. Donc l'encyclique est la base et le point de départ, mais c'est évidemment pas que l'encyclique non plus. C'est aussi aller consulter des livres, inviter des personnes, aller à la rencontre. Ça, c'est vraiment pour moi une des chances aussi de ce que l'écologie peut apporter à l'Église, aux paroisses.
Le monde a besoin de figures à imiter, à méditer, à aimer. Parlez-nous d'une de ces figures qui vous aide dans votre action quotidienne et professionnelle, au cœur du monde, mais qui reste hors du monde.
J'aime beaucoup la figure de Saint François, qui du coup est amenée dans l'encyclique. J'ai un peu redécouvert Saint François par l'encyclique, en me disant d'abord, ça peut paraître un peu niais, cette manière d'un chrétien du Moyen-Âge de parler de la création, de frère soleil, de sœur lune. Mais en fait, peut-être que leur vision à eux de la nature et de la création à l'époque était plus juste, dans une fraternité avec les créatures qu'on a perdu après parce que... aussi avec toute la révolution technique, on en est venu à considérer l'homme comme au-dessus de la création, en charge de la maîtriser. Et je pense que ça a construit dans l'Église et dans la tête des chrétiens une autre théologie. Et du coup, Saint François, je trouve que c'est vraiment une invitation à revenir à d'autres sources dans l'Église qui peuvent vraiment nous éclairer, de même que Hildegarde de Bingen ou plein d'autres figures. Et puis, ce lien qui est fait entre la question sociale et la question écologique à travers Saint François, de dire qu'il faut réparer la maison commune en parlant aujourd'hui de la terre, comme Saint François a été invité à réparer la maison commune, c'est-à-dire l'Église, c'est quand même assez extraordinaire. Et du coup, de se dire que... en gros, si je devais résumer mon livre et pour moi l'appel à la conversion écologique, c'est à travers cette dimension communautaire qui est proposée et qui permet aussi... en ayant à la fois une conversion écologique ensemble et en montant des actions collectives, d'aller rejoindre et les périphéries et d'aller aussi s'adresser aux personnes en marge de la société et aux personnes précaires. C'est en faisant des actions collectives qu'on réussit à avoir une action sociale. Moi, ça, c'est un peu une évidence. Et le pape François le dit vraiment très bien à la fin de l'encyclique en disant voilà, c'est pas la somme des actions individuelles qui va pouvoir engager un changement de société. Donc pour faire un vrai changement de société, il faut faire des actions collectives et donc la conversion écologique est communautaire. Et voilà, et donc là pour moi ça c'est vraiment dans l'esprit de Saint François. Et puis après bah, le pape aussi m'a quand même du coup beaucoup apporté. Parce que je trouve qu'il réussit à rendre très simple, et notamment dans l'audat aussi, parfois des réflexions et des travaux de théologie derrière. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui réussit vraiment à être très bon pédagogue et à sensibiliser sur des questions complexes, avec parfois des formules incroyablement simples, et ça on le voit quand on entend parler aussi. Mais lire l'évangile de la création, la deuxième partie de l'encyclique, qui je pense a été travaillée avec un certain nombre de théologiens, c'est une sorte de synthèse très simple, très claire et très belle sur en fait la théologie de la création, pour employer les grands mots, mais qu'on peut lire, voilà, ça peut être une lecture de carême, ça peut être... C'est un texte qui la rend abordable, quoi.
Nous avons parlé des figures avec Saint François, le pape François, qui ont été des témoins pour vous. Parlez-nous de ces perles de Laudato Si que vous gardez dans votre cœur, comme des cailloux blancs que l'on garde précieusement dans sa poche et que l'on serre très fort pour se donner du courage.
Du coup, je vais citer la fameuse partie de l'encyclique qui parle de la conversion communautaire, donc c'est le point 219. On répond aux problèmes sociaux par des réseaux communautaires, non par la simple somme de biens individuels. Et il dit aussi, la conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communautaire. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi un point qui m'a guidée, qui m'a frappée et qui m'a donné envie de lancer des groupes de conversion écologique. Après, je trouve qu'il y a des paroles aussi fortes sur l'importance de la conversion écologique dans la vie chrétienne. Lorsqu'il dit « vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu n'est pas optionnel dans l'existence chrétienne », enfin voilà, moi je me suis dit « bon, bah voilà, la question est vraiment posée et adressée aux chrétiens ». Et comme je disais, c'est pas « les chrétiens doivent se mettre à l'écologie », c'est « aujourd'hui, nous chrétiens, cette question doit faire partie de notre vie de foi ». Et donc, un peu dans le même registre, la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Voilà, c'est pas le sujet, c'est pas uniquement de changer des modes de vie, de faire des actions écolo, c'est de revoir complètement les quatre relations, la relation à Dieu, la relation à l'autre, la relation à soi et la relation à la création. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi, je trouve, de très clair, très limpide, que le pape François amène dans l'encyclique. Voilà, en disant, on ne peut envisager une relation avec l'environnement isolée de la relation avec les autres personnes et avec Dieu. Donc vraiment, cette cohérence et cette manière de revoir la manière dont on habite le monde, en général.
Monseigneur Bruno-Marie Dufay, secrétaire du Dicastère pour le service du développement humain intégral en charge de la doctrine de l'Église, s'intéresse beaucoup à votre action. Il est même question de publier votre livre dans d'autres langues. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ?
Oui, alors en plus Bruno-Marie Dufay a préfacé mon livre. On se connaissait à l'origine parce qu'il était lyonnais. Et moi j'ai participé à une conférence au Vatican, la conférence Laudato Si, qui était pour les 3 ans de l'encyclique, où j'étais intervenue en disant qu'il était important de diffuser des initiatives et des actions concrètes dans l'Église. Et donc, en discutant avec les organisateurs, dont Mgr Bruno-Marie Dufay, il m'avait dit, bah, justement, envoyez-nous des supports, de la documentation, enfin, tout ce qu'on peut partager. Et donc, voilà, la boucle est un peu bouclée, puisque j'ai écrit le livre, effectivement, pour diffuser les initiatives et montrer plein de groupes qui s'étaient créés en France. Et donc du coup, il a préfacé le livre, et puis aujourd'hui, voilà, le Dicastère est intéressé pour diffuser ce document.
Merci Marie-Hélène Lafage, merci pour ce bel ouvrage « Laudato Si en acte, petit guide de conversion écologique » paru aux éditions Première Partie. Je vous invite, chers auditeurs, à le lire, à le potasser et en avant dans le concret de nos vies.
Je ne sais pas si certains auditeurs ont eu l'occasion de rencontrer le groupe des Altères Cato au sein du Café Le Simone, ce qui est bon, c'était fortune et ce café se situe aux confins du carrefour là, de Lyon-Perrache. C'est un carrefour mêlant toute personne, tout type de personne, toute orientation. Et c'est un petit peu prophétique d'avoir mis ce café dans ce carrefour. Et entre deux trains, je vous invite vraiment à prendre un verre et de discuter avec ces personnes dynamiques.
Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler déjà le petit guide de l'Audadossi en acte, où peut-on le trouver, s'il vous plaît, Emmanuel?
Alors, vous pouvez le trouver dans toutes les librairies. Hein. S'il n'est pas disponible, n'hésitez pas à le commander au sein de vos librairies. Et j'en profite, non pas sur Amazon, puisque l'Audadossi en acte, on en a parlé, c'est le fruit de rencontres d'hommes et de femmes. Et le fait de passer aussi par des petites librairies locales, c'est aussi un acte militant. Et sinon, vous pouvez le trouver dans votre diocèse. Je sais que certains diocèses en ont à disposition pour que les groupes diocésains puissent se monter et travailler le sujet en amont. Hein, donc je rappelle, le titre c'est Laudato si en acte, petit guide de conversion écologique. Donc Marie-Hélène Lafage aux éditions, première partie.
Alors, nous venons de recevoir un SMS. Bonjour Radio Maria France, merci pour l'émission. Dites, est-ce que c'est autorisé de reproduire le concept du café Le Simone dans un pays en Afrique? Ou est-ce qu'il faut une autorisation? Et où peut-on se procurer le livre? Nous venons d'y répondre. Merci beaucoup. Voilà ce message.
Alors, merci pour votre honnêteté. Tout le monde n'est pas aussi honnête que cela. Alors, non seulement c'est permis, mais c'est... Il n'y a pas de copyright, hein, c'est vraiment une initiative engagée. Et Marie-Hélène Lafage m'a redit en disant bah voilà, que ceux qui sont intéressés viennent nous rencontrer, viennent sur place ou qu'ils m'appellent. On leur donnera toutes les infos, toutes les retours d'expérience que nous avons faits. C'est vrai que ce n'est pas anodin de commencer par un café associatif. Le Christ, lorsqu'il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par manger avec ses disciples du poisson grillé. La table, c'est fondamental. Et commencer par un tour de table, un café, un partage de pain, eh bien, les langues se délient plus facilement. Donc, n'hésitez pas. Et puis, comme le dit Marie-Hélène Lafage, avançons en chantant. Et petit pas par petit pas, le plus important, c'est finalement de commencer. Donc merci de votre initiative, de votre idée de lancer un petit café associatif comme ça pour mettre en acte la Laudato si.
Donc pour tous ceux qui ne pourraient pas forcément aller en région parisienne visiter ce café, comment peuvent-ils se renseigner? Est-ce qu'il y a peut-être un site ou quelque chose où effectivement on peut savoir qu'est-ce qui s'y passe, quels sont les projets, voilà.
Oui, alors effectivement, donc il y a les deux cafés là, dont on parlait, un à Lyon et un à Paris. Et sinon, il y a le site internet. Hein, vous tapez le café Le Simone à Lyon, vous tombez directement de dessus. Et puis ensuite, vous tapez Laudato si en acte sur internet et vous trouverez toutes les informations concernant Marie-Hélène. Après, n'hésitez pas, j'insiste vraiment à vous rapprocher de votre diocèse, puisque au sein de l'Église en France, chaque diocèse est maintenant doté d'un référent écologie intégrale, dont la mission justement est de vous aider dans cette initiative, dans ces initiatives. C'est du long cours, hein, donc c'est pas, ça demande de l'énergie, ça demande aussi de l'organisation. Et donc au sein de vos diocèses, il y a ce référent. Et au sein de la France métropolitaine et d'outre-mer, il y a des réseaux de tous ces référents écologie intégrale qui se retrouvent tous les mois pour partager de la documentation, partager des expériences. Donc voilà, les ressources sont disponibles au sein de votre diocèse. Et si d'aventure il n'y aurait pas de référent écologique, eh bien c'est l'occasion de poser la question à votre évêque, pour pouvoir monter un petit groupe Laudato si en acte. Il faut savoir que les conférences épiscopales ont lancé là, sur plusieurs années, des gros chantiers sur Laudato si. Et donc, on se retrouve tous les 6 mois pour travailler le sujet, hein, soit sur l'écologie intégrale proprement parlée, sur l'énergie, sur l'agriculture, sur la mise, sur les relations humaines. Et donc, pour pouvoir mettre en œuvre de manière concrète toutes ces grandes orientations, les diocèses s'appuient sur des groupes de chrétiens engagés.
Voilà, alors du coup, si nous souhaitons être formés pour pouvoir effectivement savoir déjà de quoi on parle, on doit déjà aller voir ce référent écologique diocésain.
Tout à fait, vous pouvez aller tout à fait le voir. Et puis au sein de ces groupes, il y a après diverses composantes qui vont se créer. Hein. Il y a les groupes qui vont travailler sur Église verte. Donc Église verte, on en a parlé la fois dernière, c'est sur tout ce qui est patrimoine bâti et humain de votre Église. Il y en a qui vont travailler sur plus l'accueil de l'autre au sein des paroisses, au sein des différents mouvements. D'autres encore qui vont travailler sur une intelligence sur la mobilité au sein du diocèse. Il y a toute une kyrielle d'actions qui vous seront proposées. Et si elles n'existent pas, eh bien, vous pourrez être le pionnier en la matière. Le plus difficile, finalement, c'est de commencer. Et ensuite, la grâce surabonde.
Alors, est-ce que vous auriez connaissance, pour ceux qui sont dans d'autres diocèses, dans d'autres lieux, de belles initiatives justement qui se sont lancées aussi, comme par exemple ce qu'a fait le Simone?
Alors oui, il y a d'autres belles initiatives. Les initiatives les plus communes que l'on retrouve et qui sont finalement les plus faciles à mettre en œuvre et les plus symboliques, hein, sont ces diverses jardinières ou petits jardins potagers qui fleurissent au sein des groupes paroissiaux. Ce sont des petits carrés de terre qui, outre le fait d'abriter des plantes potagères ou bien des fleurs, sont un témoin vivant que la création est belle. Avant de parler de protection de l'environnement, eh bien, tâchons de nous émerveiller de tout ce qu'il y a. Et au cœur des villes, je connais bon nombre de curés qui ont commencé à gratter la terre sur 1 mètre carré ou 2 mètres carrés pour pouvoir faire fleurir ces plantes et qui ont le mérite finalement de nous interroger par rapport à notre action concrète par rapport à l'environnement humain et naturel, et puis de nous interroger aussi de notre relation, comment est-ce que nous nous relationnons avec la nature. Donc voilà, ces petits jardins, ils sont très très intéressants parce que ça ne demande pas grand-chose, très peu d'investissement, et tout de suite, c'est comme le café hein, finalement, tout de suite, ça permet de mettre la main à la pâte, et en binant, en grattant, en désherbant, eh bien la relation se fait beaucoup plus naturellement que de manière formelle autour d'une table avec un paperboard, des stylos, etc. Donc ça, c'est extraordinaire. Après, il y a aussi beaucoup de filières courtes qui se font, des groupements d'achat, des paroissiens qui s'organisent pour promouvoir tel ou tel agriculteur de la paroisse qui produit soit du miel, soit des fruits, des légumes. Et puis après, il y a aussi toute une dimension de laudative sur l'accueil dans nos églises. Avec des personnes qui mettent en place ce qu'on appelle des anges gardiens et qui repèrent toutes les personnes qui ne sont pas familières de la paroisse et qui les accueillent et qui les incluent finalement dans la communauté chrétienne. Donc les initiatives hein, ne manquent pas et elles sont tout à fait faciles à mettre en œuvre et pour la plupart cachées puisqu'on n'en fait pas forcément la promotion, on cherche d'abord à en vivre.
Donc au final, c'est à la portée de tous, chacun peut faire un petit peu.
C'est ça, chacun essaye d'en faire un petit peu. Et d'ailleurs, le pape l'a rappelé en disant « n'attendons rien des grandes institutions, des grandes conférences internationales ». Elles sont importantes, certes, mais ceux qui ont le pouvoir, c'est finalement nous, de faire le premier pas. Et je me rappelle mon fils, pas plus tard que hier, me disait « mais papa, tu fais des actions pour l'environnement, mais ça ne sert à rien, si tu es tout seul, ça ne change pas ». Et je lui dis « tu as raison, finalement, si on est tout seul, mais par porosité, par capillarité, par l'exemplarité, eh bien on avance à quelque chose ». Il faut quand même rappeler que le Christ, il était initialement le seul à parler de la bonne nouvelle, Et puis, 2000 ans après, on s'aperçoit que par contagion, malgré toutes les épreuves, toutes les difficultés, eh bien, c'est l'humanité entière qui connaît le Christ. Donc, n'ayons pas peur des premiers pas prophétiques. Et avec tous les premiers pas prophétiques, avec les difficultés inhérentes qui seront les nôtres. Mais comme le Christ a déjà vaincu la mort, eh bien, c'est une bonne nouvelle.
Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu.
Voilà, et eh bien nous arrivons au terme de l'émission. J'ai envie aussi de confier à nos auditeurs, ceux qui parfois ne peuvent pas sortir de chez eux puisqu'ils n'ont plus forcément la force, et bien justement tout ce beau projet pour qu'il puisse y avoir de belles choses, de belles initiatives lancées donc à tous ceux qui ne peuvent plus sortir de chez eux, qui sont dans l'incapacité. Mais en tout cas, vous avez cette force de la prière pour faire changer les choses. Donc merci à vous tous pour vos prières, pour tous ces beaux projets.
Merci à tous.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire, parole d'espérance encore pour conclure, puisque nous arrivons au terme de l'émission?
Pour conclure, je voudrais d'abord rendre grâce pour toutes ces merveilles qui nous entourent, rendre grâce aussi pour la miséricorde que Dieu nous fait de placer sur notre route des témoins qui nous aident à finalement cheminer dans la joie et non pas dans la culpabilité. Voilà, merci pour cette miséricorde.
Merci beaucoup Emmanuel Grosstadt pour cette émission, et puis à très très bientôt.
Merci, bonne journée à tous.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.